Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Et à la une, ce rapport choc sur les conséquences des écrans chez les plus jeunes. Il prévoit notamment d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans et le téléphone portable aux moins de 11 ans. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rapport très inquiétant dans un instant. Une marche blanche en hommage à Matisse aura lieu samedi à Châteauroux. Cet adolescent de 16 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Un suspect âgé de 15 ans ainsi que sa mère ont été mis en examen dans ce meurtre. Nous ferons le point sur cette affaire dans ce journal. La crise à Sciences Po s'invite à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été attaqué par la France insoumise d'un côté et par le Rassemblement national de l'autre. De nouvelles manifestations pro-palestiniennes ont été organisées dans plusieurs universités françaises. Et puis une trêve au Proche-Orient était imminente. Les États-Unis pressent le Hamas d'accepter sans plus tarder la proposition d'Israël. Elle comprendrait notamment un cessez-le-feu de 40 jours ainsi qu'une libération des otages détenus dans l'enclave palestinienne. Et pendant ce temps, Benjamin Netanyahu promet une offensive sur la ville de Rafah. À la une donc, ce rapport alarmant sur les conséquences des écrans sur les enfants. Une commission d'experts spécialement missionnée par l'Élysée dresse donc un bilan très inquiétant et propose des mesures strictes. Interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans et pas de téléphone non plus jusqu'à 11 ans. Explications et détails avec Sarah Barney.
C'est un rapport qui alerte sur l'exposition des enfants aux écrans et ses effets négatifs. Les experts parlent notamment de troubles du sommeil, de sédentarité qui favorisent l'obésité ou encore de problèmes de myopie. Autre élément pointé du doigt, les réseaux sociaux. La commission estime qu'ils favoriseraient des risques de dépression ou d'anxiété chez les plus vulnérables et alerte sur l'exposition des enfants à des contenus pornographiques et violents. Pour reprendre le contrôle, les experts proposent une série de restrictions. Ils appellent à empêcher tout usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans et fortement limiter l'accès pour les 3 à 6 ans avec des contenus éducatifs et accompagnés par un adulte. La commission propose de limiter autant que possible l'usage des téléphones portables et téléviseurs dans les maternités et d'interdire les écrans dans les crèches et classes de maternelle. Pour ce qui est du téléphone portable, le rapport préconise de ne l'autoriser qu'à partir de 11 ans via un téléphone sans internet. À partir de 13 ans, les experts proposent de donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux, puis d'ouvrir cet accès à partir de 15 ans uniquement au réseau dit éthique. Face aux stratégies de captation des acteurs économiques, le groupe d'experts appelle les utilisateurs à mieux paramétrer les fonctionnalités des applications et le contrôle parental.
Une marche blanche en hommage à Matisse aura lieu samedi à Châteauroux. Cet adolescent de 16 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Un suspect âgé de 15 ans ainsi que sa mère ont été mis en examen dans ce meurtre. Et le jeune homme a lui été placé en détention provisoire. On fait le point avec Maxime Lavandier, Chloé Tarka, Célia Barotte et Bambagay.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Matisse. Tout part d'une insulte que l'adolescent aurait adressée à son agresseur, ainsi qu'un coup de poing qui lui aurait asséné. Pris par la colère, l'agresseur de Matisse serait alors retourné chez lui pour s'emparer d'un couteau, avant de revenir auprès de la victime pour le poignarder, puis de s'enfuir. Des circonstances qui restent encore à déterminer, le père de Matisse appelle à la prudence.
Personne ne sait ce qui s'est passé, et j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit.
Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. La femme est connue pour son agressivité Un comportement que nous confirme cette habitante du quartier.
Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas. Matisse était. Je peux discuter avec Matisse. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce que. Elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il avait regardé, puis elle lui avait dit ouais, toi. Enfin, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. Puis elle m'avait dit ouais, toi, sale p*** de te faire. Enfin voilà, il y avait vraiment une tension. Hein.
Après sa garde à vue, le mineur est actuellement placé en détention provisoire. Quant à sa mère, elle est placée sous contrôle judiciaire strict.
Châteauroux, mais aussi Grande-Synthe ou encore Viry-Châtillon depuis plusieurs semaines maintenant. Les drames impliquant des mineurs se multiplient en France. Alors la justice doit-elle être plus ferme avec les mineurs? Et qu'est-ce que l'excuse de minorité? On voit tout ça avec Maxime Lavandier.
Créée le 2 février 1945, cette ordonnance permet à un mineur de ne pas être puni aussi sévèrement qu'un majeur. Deux conditions entourent ce principe juridique. La première concerne la capacité de discernement. Si le mineur est âgé de moins de 13 ans, il est considéré comme pénalement irresponsable. En revanche, pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si un mineur encourt une peine à perpétuité, elle ne peut être supérieure à 20 ans. L'excuse de minorité peut être cependant exceptionnellement levée entre 16 et 17 ans, comme cela a été le cas pour deux affaires en 1985 et 2013. Après plusieurs drames survenus ces derniers jours impliquant des mineurs, le gouvernement a relancé le débat sur la levée de l'excuse de minorité. Si du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella se dit favorable à cette suppression, pour Louis Boyard, député de la France Insoumise, c'est un non catégorique.
Je n'y suis absolument pas favorable parce que j'estime qu'il faut protéger les adolescents et deuxièmement, j'estime que ce n'est pas la bonne solution.
En plus d'ouvrir le débat, Gabriel Attal veut aller plus loin. Le Premier ministre se dit prêt à mettre en place une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans.
Et puis dans ce contexte de justice, un nouveau record du nombre de détenus en France a été battu puisqu'au 1er avril, 77 450 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises, c'est 4300 de plus que l'année dernière. Des chiffres qui ont été communiqués ce mardi par le ministère de la Justice. Sachez que la densité carcérale globale s'établit aujourd'hui à 125,8%. Ce mercredi marque le jour de la fête du travail, bien sûr, et comme chaque année, les cortèges seront nombreux un petit peu partout sur le territoire. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues dans la rue, dont 30 000 dans les rues de la capitale. Des mouvements pro-palestiniens pourraient se joindre au cortège, ainsi que des slogans contre les Jeux Olympiques. Les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent après la Sorbonne et Sciences Po Paris. Eh bien, l'université de Tolbiac a été brièvement bloquée ce mardi. C'est le cas également de Sciences Po Rennes ainsi que de Sciences Po Menton. Des événements au cœur des débats d'ailleurs dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et les images commentées par Corentin Alonso. Regardez.
C'est Manuel Bompard qui a tiré le premier, dénonçant une dérive autoritaire du gouvernement.
Dans un pays que vous connaissez bien, on menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant.
Monsieur le député Bompard, après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte.
De son côté, le Rassemblement national reproche à l'exécutif un manque d'autorité contre la montée de l'antisémitisme dans les universités.
Les blocages et les intimidations, c'est non. Et encore moins l'incitation à la haine et l'antisémitisme avec une tolérance zéro, nous le répétons, ou l'appel à l'insurrection. La décision de recours à la force publique au sein des établissements relève des chefs d'établissement et nous n'y sommes jamais défavorables lorsque la situation l'exige.
Face à cette situation, Sylvie Retailleau réunira jeudi l'ensemble des présidents d'université.
Et puis les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan ont été entendues par la police pour apologie du terrorisme. Une audition qui fait suite à des propos liés à la guerre au Proche-Orient. Des convocations qualifiées de censure par la France insoumise qui a décidé d'organiser un rassemblement à proximité du siège de la police judiciaire de Paris. Les explications avec Maxime Le Guay.
Des drapeaux palestiniens mêlés à ceux de la France insoumise et un slogan répété inlassablement « Nous ne nous tairons pas ». Voilà le message que voulaient faire passer les insoumis peu avant la convocation judiciaire pour apologie du terrorisme de Rima Hassan et de Mathilde Panot. Une convocation que fustige la chef de file des députés LFI.
Ce qui se produit en France est une fuite en avant autoritaire sans précédent. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques ?
Après avoir été auditionnée pendant 2 heures, en compagnie de son avocat, Rima Hassan est ressortie tout sourire. La militante pro-palestinienne le réaffirme, elle ne changerait pas une virgule de ses propos tenus sur le Hamas.
Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis. Jusqu'au bout, je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent.
De son côté, l'avocate de Mathilde Panot déplore une atteinte à la liberté d'expression et d'opinion.
Tout ce qui se passe aujourd'hui est une question de débat public, de débat politique, et que les uns et les autres ne soient pas d'accord, ce sont une évidence. En revanche, que cela doive se régler devant la brigade criminelle ou devant les tribunaux, ce n'est pas digne de notre République et de notre démocratie.
Depuis l'attaque du 7 octobre, 386 plaintes et signalements pour apologie du terrorisme ont été déposés.
On en vient à ce drame à Londres. Un garçon de 14 ans a été tué dans une attaque au sabre. C'était ce mardi matin. 4 personnes, dont 2 policiers, ont également été blessées lors de cette attaque. L'agresseur, âgé de 36 ans, a très rapidement été interpellé par les forces de l'ordre. Et à ce stade de l'enquête, la piste terroriste a été écartée par les enquêteurs. Le récit de ce drame, c'est avec Mathilde Ibanez.
Peu avant 7h ce mardi, dans l'est de Londres, cet homme, au pull jaune armé d'un sabre, agresse plusieurs personnes. Un jeune garçon de 13 ans est décédé de ses blessures à l'hôpital. 4 autres individus sont blessés, dont 2 agents de police locale qui répondaient à l'appel.
2 de ces personnes sont toujours à l'hôpital. Heureusement, leurs blessures ne sont pas considérées comme mortelles. Les 2 officiers de police ont été également transportés à l'hôpital avec des blessures par arme blanche. Ils doivent tous 2 être opérés et présentent des blessures importantes. Mais nous pensons à ce stade que leur vie n'est pas en danger.
L'agresseur, âgé de 36 ans, avait d'abord foncé avec sa voiture dans une maison avant d'attaquer les passants. Il a été arrêté par la police et transporté à l'hôpital, où il n'a pas encore pu être interrogé compte tenu de ses blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait agi seul. Cet incident ne semble pas être lié au terrorisme, selon la police. Les attaques à l'arme blanche sont en nette hausse au Royaume-Uni. À Londres, elles ont augmenté de 20% avec plus de 14 000 attaques répertoriées l'an dernier. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a dénoncé un incident choquant sur X.
Mes pensées vont aux personnes touchées et à leurs familles. Une telle violence n'a pas sa place dans nos rues.
Le maire de Londres, quant à lui, s'est dit absolument dévasté par cette attaque.
Le roi Charles III reprend ses activités publiques avec le sourire. Après des mois d'absence due à son cancer, il s'est rendu dans un centre de lutte contre cette maladie, justement avec la reine Camilla. Le souverain s'est notamment entretenu avec des soignants ou encore des personnes atteintes de cancer. Le roi d'Angleterre voulait, par ce premier engagement public, sensibiliser à l'importance des diagnostics précoces. Direction de New York dans ce journal, puisque Donald Trump a été condamné à une amende de 9 000 $ pour outrage lors de son procès. Le juge a estimé que l'ancien président des États-Unis avait donc enfreint son interdiction de s'en prendre aux jurés ainsi qu'aux témoins. Donald Trump est jugé depuis 2 semaines maintenant pour des paiements dissimulés à une ancienne star de films porno. Les précisions, c'est avec notre correspondante sur place à New York, Elisabeth Guedel.
Donald Trump était prévenu par le juge. Si sur les réseaux sociaux ou devant les caméras, il s'en prenait à des témoins ou aux membres du jury, il serait pénalisé. Ça n'a pas empêché l'ancien président de dire tout le mal qu'il pensait de l'ancienne actrice du X, Stormy Daniels, et de son ancien avocat Michael Cohen, 2 témoins clés dans cette affaire de fraude comptable pour étouffer un scandale. Donald Trump parle de liberté d'expression et de droit à répondre à des attaques, un des arguments qui ont été rejetés. Le juge a finalement condamné Donald Trump à une amende pour outrage au tribunal, 9 000 $, le maximum autorisé par la loi. Mais une somme, estime encore le juge, qui n'est pas assez dissuasive pour un milliardaire comme Donald Trump. Et il a donc trouvé une menace beaucoup plus convaincante, la prison en cas de récidive. Donald Trump a dû effacer les messages en question, mais arrivera-t-il à se retenir alors qu'il reste encore plusieurs semaines de procès ? Les procureurs ont déjà trouvé 7 nouvelles infractions qui seront examinées dès la prochaine audience ce jeudi.
Direction le Proche-Orient. Dans ce journal, Benjamin Netanyahou promet une offensive sur la ville de Rafah avec ou sans accord de trêve avec le Hamas. Il a affirmé que l'armée israélienne entrerait dans cette ville, donc du sud de l'enclave palestinienne. Le Premier ministre israélien veut aller au bout de ses objectifs. Je vous propose donc de l'écouter.
Nous entrerons à Rafah parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous y détruirons les bataillons du Hamas. Nous atteindrons tous les objectifs de la guerre, y compris le rapatriement de tous les otages.
Et puis de son côté, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, presse le Hamas d'accepter sans plus tarder la proposition de trêve. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est ce qu'il a affirmé ce mardi.
Les Israéliens ont mis sur la table une proposition solide. Ils ont démontré qu'ils étaient prêts à faire des compromis. Et maintenant, c'est au Hamas de jouer. Plus de retard, plus d'excuses. C'est maintenant qu'il faut agir.
Et puis cette déclaration du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Il appelle les sportifs de son pays à, je cite, « casser la gueule de leurs adversaires lors des Jeux Olympiques de Paris ». Des propos chocs alors que les sportifs bélarusses participeront aux Jeux sous bannière neutre. Écoutez le président bélarusse donc.
Si tu t'es qualifié et que tu y vas sous statut neutre, alors casse-leur la gueule. Montre-leur que tu es un vrai bélarusse. On saura toujours que tu es bélarusse. Et quand tu sortiras vainqueur sans ton drapeau, c'est un bon moyen pour nous de leur taper sur la gueule au plan politique aussi. Nous ne devons pas reculer.
Et enfin, juste avant votre journal des sports, on va rêver tous ensemble cette nuit, chers téléspectateurs, puisqu'un Français a remporté ce mardi la somme de 166 millions d'euros à l'euro-million. Cette personne a donc coché les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles sur son ticket. Ça donne bien sûr envie de jouer dans les prochains jours. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et les demi-finales, et bien sûr de la Ligue des Champions. Ce mardi soir, le Real Madrid est allé chercher un bon match nul, 2 buts partout sur la pelouse du Bayern Munich. Le match retour, c'est le 8 mai prochain. On voit tout ça avec Jérémy Sakai.
C'est l'un des grands classiques du printemps en Ligue des Champions. 4e affrontement en 12 ans entre le Bayern Munich et le Real Madrid au stade des demi-finales. 40 secondes au chrono, cadeau de bienvenue des Bavarois. Lounine stoppe un Sané trop excentrique. Thomas Tuchel enrage déjà. Les mouvements sont plus fluides côté allemand. Le Bayern est élégant, mais ses offensives manquent de saignants.
Lui aussi est élégant, ah bon, Toni Kroos.
Quel bon ballon.
Magnifique pour Vinicius. Le Real entre en scène et cela fait mal. Vinicius, la fougue, Vinicius, l'instinct.
Contre Manchester City, les hommes d'Ancelotti avaient appris à subir. Leçon retenue, 2 semaines plus tard, ce Real est toujours létal. La réponse du Bayern est signée Harry Kane. C'est plus puissant, moins précis. 1-0 à la pause. Changement tactique au retour des vestiaires. Guerrero remplace Goretzka. L'effet est presque immédiat.
Une percée de Konrad Leimer qui a donné à Sané.
C'est un bon ballon.
Bon ballon à négocier pour les Russes. Sané. Sané s'infiltre.
Il
réveille la colère du Bayern.
En 4 minutes, l'euphorie gagne les Munichois. Lucas Vazquez fauche Moussiala, pénalty. Harry Kane inscrit son 43e but cette saison en 43 matchs. Cette demi-finale allée devient une affaire de pénalty. Rodrigo Puskim à la faute. Et comme les grands moments appartiennent aux grands joueurs, c'est Vinicius qui ramène le Real à 2 partout. Le billet pour Wembley se jouera à Bernabéu.
Une réaction juste après cette rencontre au métro de Canal+, celle de l'international français Aurélien Tchouaméni, titulaire ce soir pour le Real Madrid. Écoutez.
C'est pas facile de venir ici contre cette équipe du Bayern, même s'ils sont dans une situation un peu compliquée en championnat. On sait que la Champions League, c'est fait pour les grands joueurs. Ils ont une équipe avec énormément de grands joueurs, donc forcément, on s'attendait à un match difficile. C'est ce qui s'est passé. Après, on a cette force-là collective de tout donner jusqu'à la fin. C'est sûr que le début de la deuxième mi-temps, c'est pas passé comme on le voulait, mais on a réussi à revenir et maintenant, rendez-vous à Bernabéu.
Allez, on va parler du choc. Ce mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund dans l'autre demi-finale donc de cette compétition. Victorieux du FC Barcelone au tour précédent, les Parisiens sont à 2 matchs d'une finale à Wembley. Mais face à une équipe portée par son mur jaune, il faudra tenir et notamment dans le secteur défensif. On va retrouver sur place à Dortmund notre envoyé spécial pour Canal+, Olivier Talat.
Oui, c'est vrai que la défense sera peut-être un élément déterminant pour la qualification en finale de la Ligue des Champions, parce que c'est vrai qu'au PSG, on parle plus souvent de cette attaque qui impressionne toute l'Europe en ce moment, peut-être la plus impressionnante sur le continent, avec Dembélé, Barcola, Kylian Mbappé bien sûr, Asensio ou encore Colomouani, mais Paris reste friable derrière dans cette compétition. Sur les 18 derniers déplacements du PSG en Ligue des Champions, eh bien Paris, c'est 0 clean sheet. Paris en caisse des buts, il ne faudra pas en prendre de trop demain si Paris devait en prendre, parce que il faut garder évidemment toutes ses chances pour le match retour une semaine plus tard qui sera au Parc des Princes. Mais on sait que le Borussia Dortmund a fait exploser la défense de l'Atlético Madrid, hein. C'est une équipe qui peut être surprenante, même si elle est un petit peu moins bien en Bundesliga. Elle se transcende en Ligue des Champions, et c'est vrai que demain la charnière centrale qui devrait être composée de Marquinhos et Lucas Hernandez devra être très solide, et puis sur les côtés aussi, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devront être particulièrement inspirés pour garder toutes ses chances évidemment pour le match retour dans une semaine.
Et enfin, Luis Enrique, le coach du PSG, était en conférence de presse à la veille de cette rencontre. Il a notamment évoqué l'état de forme global de son groupe ainsi que l'importance bien sûr de ce match pour les supporters parisiens.
En todos. Ahora mismo solo hay dos jugadores que no pueden participar, Sergio y Kimpembe. El resto están a disposición. Creo que somos mejores defensivamente, mejores en el plano ofensivo. Podemos mejorar, no hay ninguna duda. Esto es. Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido muy especial en un campo, diría, único en Europa y tener la posibilidad de dar una alegría muy grande a nuestra afición clasificándonos para una final. Eso es lo que nos hemos ganado.
Allez, voyeurs, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ce rapport choc sur les conséquences des écrans chez les plus jeunes. Il prévoit notamment d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans ainsi que le téléphone portable aux moins de 11 ans. Tout ce qu'il faut savoir donc sur ce rapport très inquiétant dans notre prochain journal. Bonne nuit à toutes et à tous sur notre antenne et je vous retrouve donc dans un instant.
Tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.